Aujourd'hui, pour la plupart, c'est il y a vraiment longtemps. 5 mois, c'est pas peu. Je suis vraiment très heureux de vous voir. Et je rends gloire à Dieu pour votre santé et pour votre joie à vouloir rencontrer le Seigneur ici. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il nous a fait pour nous. C'était un temps difficile et qui continue. Mais Dieu est là. Assurez-vous, Dieu est là. Et il veille sur nous. Il veille sur chacun d'entre nous. Sur chaque individu ici présent. On voyait le titre, vous l'avez sans doute entendu, vous l'avez sans doute lu, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Ce sont les mots de Jésus quand il était dans son ministère autour de la Galilée. Là aussi, il y a une mère avec ses disciples. Et j'aimerais que le temps que nous avons, nous puissions explorer ensemble ce récit et surtout comprendre et apprendre ce que cela veut nous dire et de voir ce que nous pouvons en faire aujourd'hui. Quelle est notre mission aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'héritier de Dieu? Il y a à peu près un mois, ma famille et moi avons vécu une chose terrible. Une nouvelle qui nous a tous bouleversés. Nous avons perdu un jeune homme de 19 ans. Il est mon neveu. La famille habite à Dortmund, c'est en Allemagne. Alors, le jeune homme, un jour, est sorti avec d'autres enfants, d'autres jeunes de son âge, pour aller nager tout près d'Amsterdam, donc pour chasser la chaleur qui sévissait. Alors, ils se sont amusés. Après, Théo manque, il s'appelait Théo. On cherche partout sur la plage, il n'est pas là. On commence à paniquer, à avoir peur. Immédiatement, on alerte la police et le service de secours. Rien. Il était parti. Un jeune homme de 19 ans qui avait toute la vie devant lui. Il était dans sa sixième année secondaire, il est allé en Allemagne. C'était un nouvel choquant pour moi et pour toute la famille. Alors, on l'a cherché pendant une journée. On l'a trouvé après. Il était déjà mort. Je vous raconte cette triste introduction pour vous introduire en ce qui concerne la mer. Les disciples de Jésus sont sur la mer. Quand on était en train de discuter avec la famille, avec les membres de la famille, d'autres visiteurs, Nous échangeons sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont noirs. Il y en a qui nous a dit, vous savez, dans les eaux, il n'y a pas de spécialiste. Même les gens les plus familiers aux eaux peuvent partir. Alors le rapport de la police qui a révélé que, en fait, le jeune homme était tranquille, là où il croyait qu'il a la sécurité. Ce n'était pas profond, il pouvait nager. Mais il ne savait pas que juste quelques pas, la mer est très profonde. Alors, il s'est fait que un vent très, très, on va dire, dont on ne s'attendait pas, ça arrive dans les mers, l'a poussé avec un vent fort, l'a poussé vers là-bas où c'est très profond. Alors, vous imaginez, avec la peur, avec la panique, c'était fini. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Dans quel contexte est-ce que Jésus a dit cela? Si vous lisez le chapitre 14 de Matthieu, Matthieu chapitre 14, je vous invite à lire quelques versets avec moi. Matthieu chapitre 14. Il y a deux événements qui précèdent ces paroles-là. Il y a d'abord la mort de Jean-Baptiste. Il y a aussi la multiplication des pains. Et puis vient Jésus qui marche sur les eaux, là où il a dit ces choses. La mort de Jean-Baptiste, c'est aussi quelque chose de traumatisant chez les disciples. Vous pouvez lire là les versets auparavant. Les disciples viennent et disent à Jésus, Jean-Baptiste est mort. Pourquoi Jean-Baptiste était mort? Il n'était pas malade. Il était en prison injustement parce qu'il avait dit que le roi Hérode avait un comportement, on va dire, bizarre parce qu'il avait épousé la femme de son frère, ce qui n'existait pas chez les Israélites. Il avait seulement dénoncé cela. Mais cela lui a valu la prison, non seulement la prison, la mort, et une mort atroce. Vous vous rappelez que, au cours d'une fête, la fille d'Hérode dit à la femme en question, sa fille a une fête. Et le roi demande à sa fille chérie de demander ce qu'elle veut. Alors, comme toute fille de bon cœur, elle va d'abord demander conseil à sa mère. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse ici, chère maman. Quel est votre conseil à vos enfants? Alors elle va demander conseil à sa maman. Vous connaissez l'histoire. Et sa maman trouve une occasion de se venger. Qu'est-ce qu'elle demande à la fille? Sa fille, écoute, je suis ta mère. Il y a une chose que je veux te demander. Va demander la tête de Jean-Baptiste sur une assiette. Quel malheur! La Bible ne dit pas les détails. On ne sait pas ce qui s'est passé dans les discussions. Elle ne dit pas s'il y a eu des discussions entre la fille et la maman. J'imagine que la fille aurait demandé, mais maman, pourquoi? Mais maman, la tête, c'est horrible. Et la Bible ne le dit pas. On dit seulement que, effectivement, la fille est allée demander au roi de donner la tête de Jean-Baptiste. Voilà sa mort. Il a été coupé. Donc on vient dire à Jésus qu'il était mort. Et Jésus était triste. Si vous lisez le chapitre 14, verset 13, hein, chapitre 14, verset 13. Je vais le lire. À cette nouvelle, Jésus se retire de là, de la barque, à l'écart dans un désert de la foule qui quitta la ville et suivi à pied. Donc, à la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, Jésus est allé et s'est senti isolé. Il s'est senti triste. Les versets continuants vont nous dire qu'il est allé prier. Il se sentait tellement angoissé. Lui qui voulait, qui connaissait Jésus. Vous vous rappelez, ils ont grandi ensemble. Le Jean-Baptiste est appelé le précurseur de Jésus. Donc, ils ont vécu ensemble. Mais il était mort. Et Jésus, le Tout-Puissant, ne pouvait rien faire. Vous voyez, c'est Dieu qui connaît expliquer sa parole, hein. Mais du point de vue humain, ce n'est pas évident de comprendre cela. Pourquoi Jésus ne fait rien? Mais je constate qu'il est triste comme moi, comme vous. Et de là, nous pouvons dire qu'il connaît toutes ses souffrances. Et après, il y a un autre épisode qui suit. C'est la multiplication des pains. Alors Jésus est en train de prier, il s'est retiré, nous dit-on dans la Bible, il s'est retiré pour prier, pour demander à Dieu la force de ne pas surmonter cette mort, de ne pas surmonter on va dire, cette souffrance. Mais les gens, c'est des disciples et les autres qui le suivaient, qui cherchaient à l'écouter toujours, ont probablement demandé où est-il. Ils ont appris qu'il serait quelque part, ils ont suivi, il avait une foule. Et la Bible nous dit que, au verset 14, il eut compassion de cette foule. Il eut compassion. Il quitte la prière, son lieu de la prière, pour venir aider la foule. Il n'avait pas à manger. Ils avaient passé quelques heures à le chercher. Alors, comme un Dieu tout-puissant, il remarque qu'ils ont faim, qu'ils ont soif. Après leur avoir parlé, les disciples lui disent, « Seigneur, la foule est fatiguée, il faut lui dire de partir, il est temps, il faut qu'ils aillent manger. » Et Jésus leur dit, « Il faut les nourrir. On va y revenir. » Et voilà le miracle est fait. Il y a la multiplication de pain et de quelques poissons qui sont multipliés. Tout le monde mange. Là, au verset 22 et 23, Jésus oblige, c'est ce que la Bible dit, Jésus oblige les disciples à monter à la barque. Certains commentateurs expliquent qu'il les a obligés parce que il a vu que les disciples et les gens n'avaient pas vraiment vu ce qu'il avait fait. Ils n'avaient pas compris le miracle. Ils ne comprenaient pas pourquoi il le faisait. Même ses disciples qui marchaient avec lui. Alors les disciples qui boudent quand même, la Bible ne le dit pas, mais qui prennent leur bateau et qui s'en vont. Et remarquez une autre chose. Jésus les renvoie pour aller, pour retourner, faire quoi? Prier. Il s'en va, au verset 23, et il monta à la montagne pour prier, pour encore demander la force de Dieu. Tellement il était en chagrin, tellement il voulait ce contact de Dieu, de son Père. Je ne sais pas ce qu'il a prié, la Bible ne le dit pas. Mais je me mets à sa place, celui qui avait perdu son précurseur. Est-ce que Jésus demandait à Dieu de faire comprendre son message aux gens qui ne voulaient pas le comprendre? Possible. Est-ce pour prier aux disciples, pour les disciples, pour qu'ils comprennent les missions qui leur attendent, après la fin de sa mission? Possible. Mais est-il qu'il a des choses à dire? Il a des choses à dire. Il a un conseil à demander à son Père. C'est pourquoi il se met à l'écart. Là où personne ne le voit, là où personne ne va le déranger, il prie son Dieu. Il est en communion directe avec son Père. Peut-être une parenthèse aussi pour demander si Jésus prend un temps. Jésus, fils de Dieu, Jésus qui connaît tout, s'il prend son temps pour aller communiquer avec son Père, à combien plus forte raison devrions-nous le faire? Alors, les disciples sont partis, vous connaissez l'histoire. Les disciples sont partis et dans la barque, et j'essaie de me mettre aussi à leur place. Eux qui avaient aussi perdu, qui ne comprenaient pas du tout la mort de Jean-Baptiste, avaient certainement des doutes. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas sauvé Jean-Baptiste? Pourquoi cette injustice? Pourquoi Jésus permet cette injustice? C'est parce que Jean-Baptiste est mort pour rien, on va dire. J'essaie de me mettre à leur place pour le voir en train de se demander pourquoi il a pu nourrir toute cette foule. Et pourquoi on n'en a pas profité pour lui faire un roi? Le roi d'Israël, parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce temps-là, il ne savait pas pourquoi Jésus est là. Et entre-temps, il continue à ramer. Et je les vois qui arrivent au milieu de la mer. Et la mer dont on a vu dans mon introduction, qui s'improvise à tout moment. Il y a un vent qui s'invite. La Bible, certains commentateurs disent qu'il y avait un vent très fort qui venait de partout pour ramer, c'était difficile. Le bateau, la barque prenait vraiment le contraire de ce qu'il voulait. Alors il rame, ils font tout leur possible, mais le vent est très difficile. Rappelez-vous que ces gens-là, les disciples, sont des pêcheurs. C'est des gens spécialistes de la mer. Ils habitaient pas loin de là. Ils étaient nés, ils avaient l'habitude de la mer. Mais ils ont beau être des nageurs, des pêcheurs, ils ont eu peur, ils ont paniqué. Parce que quand vous voyez la mer, il n'y a pas d'autre île à côté. Il n'y a pas de choses qui vont vous supporter. C'est immédiatement la panique. Alors, c'est dans ce doute-là, dans ces discussions là-bas, j'imagine, que souvent leur trouve. Ils commencent à se balancer. Et le fait est que quand vous êtes dans la mer, la première chose qui vous manque, c'est la sagesse de penser qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est vraiment la peur qui hypnotise votre intelligence. Vous ne pensez pas. C'est ça qui fait problème. Donc, ils ont peur. J'ai voulu dire un peu quelque chose sur la peur. La peur signifie, dans la Bible, être en situation d'infériorité, de faiblesse devant quelqu'un ou devant quelque chose, un événement. C'est la façon de se sentir menacé devant un événement inédit ou terrifiant, une épreuve. On est terrifié, on est hypnotisé. Mais dans la Bible, la peur est souvent est souvent synonyme de la crainte. La crainte, une révérence à Dieu pour sa puissance, pour sa gloire, une reconnaissance totale de tout ce qu'il est, son omniscience, son omniprésence, son omnipotence. C'est cette révérence-là dont on fait mention dans la Bible. Ça n'implique pas forcément la peur comme on l'a quand on est à la mer. C'est un amour qu'on a pour Dieu et qui fait qu'on le respecte. Mais dans la Bible aussi, il y a ce qu'on appelle l'esprit de timidité. C'est la peur maintenant qui vous fait perdre la confiance, même en Dieu. La peur. Le mot confiance dont il est mentionné dans la déclaration de Jésus trouve son origine dans deux mots grecs et hébreux, mais chez les Israélites, c'est le fait d'accepter de compter sur quelqu'un. Confiance. Espérer en lui. Se fier à la parole de quelqu'un, avoir l'assurance. Voilà les trois mots que Jésus leur a dit quand il est venu les sauver. Et vous imaginez donc, ils sont en train de ramer, de se battre contre le vent, de se lamenter, d'appeler au secours. Et comme si cela n'était pas suffisant, ils voient une chose horrible qu'ils appellent un fantôme, parce que Jésus les avait suivis à la mer. Et c'est là qu'ils vont paniquer. Maintenant, on a le vent, mais on a le fantôme qui va nous faire du mal, et on croit cela dans la culture. Et c'est là que Jésus va leur dire ces mots. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Alors, la Bible ne dit pas les détails beaucoup, mais Jésus est entré dans la barque, comme on le dit dans les versets qui suivent, et immédiatement, le vent s'est arrêté. Je voudrais m'attarder un peu, enfin, dire quelques mots sur ce que je pense sur ce mot, c'est moi. Cette déclaration me fait penser aux différents noms de Jésus. Rappelez-vous, dans la Bible, Jésus est appelé Fils de l'homme. C'est moi le Fils de l'homme. Dans la Bible, Jésus est appelé le berger. Dans la Bible, Jésus est appelé le Messie, loin. Il est appelé le Fils de Dieu. Un peu pour leur dire, c'est moi le maître, c'est moi Emmanuel, Dieu est avec, c'est moi votre sauveur. Bref, c'est une assurance totale qu'ils n'avaient rien à craindre. Et le voyage continue. Et cette déclaration, si vous pensez au projet de Dieu à l'humanité, vous allez le voir partout dans la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a ce message. Peuple, ne craignez rien. Il a dit au peuple d'Israël, il a dit aux disciples, il a dit même il voulait partir au ciel, il a dit ne craignez pas. Prenez par exemple Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à toi, à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de justice. Et ce message, au fil des âges, et jusqu'à son retour, que il veut que nous sachions, il est le Sauveur. Il est le maître de l'histoire. Il est le maître des événements. Même celui que nous sommes en train de passer aujourd'hui de Corona, il est le maître de cela. Il sait pourquoi tout cela se passe. Bien que agité, bien que le peuple d'Israël ou les disciples ou le peuple de Dieu en général était agité, Dieu continue à nous dire ne crains rien. Et cette barque, revenons à cette barque-là, avec le vent qui secoue et qui fait perdre la direction, ça fait penser à l'Église. Ça fait penser aux membres que nous sommes. Quel chrétien ne connaît pas tôt ou tard la tempête dans la vie de tous les jours? Il y aurait beaucoup de témoignages. L'office que pendant ces mois de confinement et de cette pandémie, il y aurait beaucoup de témoignages. Combien de gens ont perdu leurs chers, les membres, qui ne pouvaient même pas enterrer, par exemple. Est-ce que vous vous imaginez le doute, l'angoisse, la dépression que beaucoup de gens ont aujourd'hui? Est-ce que vous rendez compte qu'il y a beaucoup de doutes? Certains qui demandent Jésus comme les disciples pouvaient demander à Jésus pourquoi Jean-Baptiste est mort. Aujourd'hui, bien de chrétiens ou bien de gens peuvent demander à Dieu pourquoi Seigneur, beaucoup de cris. On l'a vu dans les réseaux sociaux. Pourquoi Seigneur, pourquoi tout cela? Pourquoi? Où es-tu? Où es-tu? Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi il n'y a pas de médicaments? Pourquoi il n'y a pas de vaccins? Cette barque dans la mer, essayez de vous imaginer votre vie, la vie de vos proches. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit confiance. C'est moi. N'aie pas peur. Dans Matthieu 11, 28, vous connaissez ce verset. Jésus dit un autre mot soulageant. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, c'est lui et lui seul qui peut donner ce repos. Parce qu'il connaît tout. Il connaît la souffrance. Il connaît la dépression. Il connaît la solitude. Il connaît la mort. Il connaît tout. Alors, je voudrais, en allant à la conclusion, pensez à notre mission aujourd'hui. Cette église qui chancelle, tous les membres chancellent par le vent, par les idées. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Eh bien, je pense que le récit de Matthieu montre que un Jésus qui non seulement prie, il prie, on l'a vu, qu'il se met à côté pour prier, qu'il se met à part pour prier, mais il ne prie pas seulement. Mais aussi, c'est Jésus qui vient en aide avec compassion. Il va interrompre sa prière pour aider les gens. C'est un message pertinent pour moi. En tant qu'Église, nous ne sommes pas appelés seulement à prier, à venir prier. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Bien sûr, nos prières pour les autres, nos gestes, si petits soient-ils. Il y a des fois où nous pensons que qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un qui a perdu son aîné? Je vous ai raconté mon histoire. J'étais bouleversé, je ne savais pas rien, je ne savais pas quoi dire à ma sœur qui c'est son aîné. Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est pas évident. Mais une chose, si petit soit-il, j'ai mis entre parenthèses ici qu'on partageait quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Ça peut changer la vie de quelqu'un. Nos dîmes et nos offrandes qui œuvrent là où nous ne pouvons pas aller, ça peut changer quelque chose. En d'autres termes, Jésus dit, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur, et il est notre maître, et nous sommes les héritiers, nous avons pris la responsabilité de le suivre, nous sommes engagés, je ne sais pas Quand est-ce que tu as accepté? Quand est-ce que tu as été baptisé? Quand est-ce que tu comptes être baptisé? En tout cas, tu as accepté Jésus. Il ne faut pas seulement l'accepter, il faut être en action. N'est-ce pas? Et je voudrais proposer que c'est à nous de dire au monde. C'est-à-dire, c'est à nous de dire à nos voisins, à nos prochains, à ceux qui souffrent, aux déprimés, aux malades. C'est à nous aujourd'hui de le dire, chers amis, confiance, c'est nous, n'ayez pas peur, parce que nous sommes là. Nous pouvons utiliser des choses que nous avons. Vous savez, le bâton de Moïse, un bâton qu'il avait arraché dans la forêt, il a fait des miracles. C'est un bâton qui a fait beaucoup de miracles. Un bâton. Seulement. Ma prière est que cette déclaration de Jésus puisse être la nôtre aujourd'hui. Et que nous puissions, par sa grâce, sentir la mission qu'il nous a donnée aujourd'hui. C'est d'aller et de montrer que Jésus revient bientôt. Mais que pour ce faire, il faut que les gens puissent avoir confiance en lui. Ce sera à travers nous. C'est ce qu'il a dit. Amen.